La boulangerie, pour moi, c'est un métier où tu te réalises à travers quelques ingrédients, mais avec une gestuelle qui est très, très belle. Moi, j'ai mis des années à faire bien ce métier. Je me dis, peut-être que les gens sont beaucoup plus doués que moi, peut-être, ça arrive. Je crois qu'apprendre un métier, il faut y passer du temps, il faut être calme, il faut avoir différents maîtres d'apprentissage, il faut avoir envie de comprendre des ingrédients pour comprendre une farine plus forte ou moins forte, pour qu'on fait des pizzas avec des farines fortes qu'on va bouler et qu'on va garder 2 jours dans son réfrigérateur, après elles vont s'étaler toutes seules. Pourquoi la focaccia, c'est la même chose? Ben, c'est tout ça, c'est cet apprentissage. Et puis le pain, c'est bien sûr français, parce que la baguette française est universelle, elle est connue, mais ça va être les ciabatta d'Italie, ça va être les focaccia, ça va être un tas de sortes de pains qui existent dans les pays anglo-saxons, dans les pays du nord de l'Europe, qui sont des pains foncés, etc., mais qui sont très très bons. Je crois que tout ça, il faut apprendre les recettes, la gestuelle, le machin, et c'est tout ça qui fait un métier en vrai.
Dans le pain, dans la manière de faire, qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer avec ça?
Moi, à chaque fois que je regarde des pains, des fois, je dis aux gens, vous ne devriez pas les vendre, ils sont trop beaux, ces pains. On a envie de les manger, on a envie de les caresser, on a envie de les aimer. Je trouve ça qui est beau. Tu pars de quelques ingrédients, qui peuvent être 4 ingrédients, hein, farine, eau, sel, levure. Mais tu peux rajouter un tas d'ingrédients, un tas de choses pour que ça soit quelque chose de prodigieux. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Surtout, on a un des métiers les plus anciens du monde et on a un des aliments avec lequel on pourrait survivre s'il y avait une catastrophe quelque part. Le riz a beaucoup moins de pain. Il a pas de germes de blé, par exemple, à l'intérieur, donc il nourrit pas assez. Le pain, c'est le seul aliment avec lequel on peut survivre. Donc, il faut le respecter, il faut l'honorer, il faut l'améliorer. On l'utilise à l'église, hein, comme le vin. Je crois que c'est juste extraordinaire. Donc c'est ça qui me fascine en vrai. Pouvoir faire des miracles avec peu.
J'aimerais revenir vraiment au début. Quelle a été ta première rencontre, on va dire, avec le pain?
La première rencontre, ça a été voir mon père faire du pain quand j'avais 3-4 ans. Et j'adorais quand il me donnait la chance de pouvoir venir travailler un peu avec lui dans le fournil, faire une tarte aux pommes, faire un morceau, enfin essayer de faire une baguette, faire quelque chose de beau. Je trouvais que la gestuelle était très belle. Puis j'aimais aussi ces odeurs. Le matin, vous arrivez dans le fournil, vous avez des odeurs de croissant, de pain au chocolat, de tarte aux pommes, de fraisier, un peu de tout. Et je trouvais que c'était extraordinaire. Et puis, partir de quelques matières premières pour faire quelque chose de beau qui nourrit la planète, je crois que ça m'a, dès que j'ai pu comprendre, ça m'a séduit.
Tout de suite, donc dès le plus jeune âge, en fait, mordu tout de suite.
J'étais à l'école, je me rappelle, à Lure, une petite ville en Haute-Saône, et il y avait 8000 habitants. Et quand j'allais voir l'instituteur, il me demandait ce qu'on voulait faire. Il demande toujours aux jeunes ce qu'ils veulent faire. Et moi, je disais toujours, je voulais faire de la boulangerie et voyager. C'est vrai qu'à l'époque, on voyageait pas ou peu, et encore moins dans les petites villes de province. On connaissait pas trop l'avion et tout. Et je commence à prendre des livres de géographie, à regarder le monde. Et je me dis, tiens, je pourrais faire du pain partout dans le monde, apprendre. Et ça m'a passionné de suite.
C'est marrant parce que jeune, on n'a pas souvent une super idée de ce qu'on veut faire plus tard. Donc c'est quand même particulier de tout de suite, très jeune, savoir.
Ouais, j'ai eu l'impression, j'ai vu un ami qui est chirurgien, grand chirurgien à New York. Il opère d'ailleurs les enfants. Et il a le même déclic que moi à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Dès qu'on a pu penser, on s'est dit, lui, il voulait faire chirurgien. Moi, je voulais faire de la boulangerie. Comme c'était, vous voyez, la voie tracée, on a envie de faire. Ouais.
Donc c'était familial et puis ensuite, en fait, assez naturel.
Mon père a vendu son affaire quand j'avais une dizaine ou 11 ans, donc j'ai un peu oublié après. Et puis à 15 ans, j'ai voulu rentrer en apprentissage de boulangerie. On était à l'époque sur la Côte d'Azur. C'était plus sympa pour aller travailler tôt le matin, il fait beau. Avec des petites motos, j'ai démarré mon apprentissage, je vais avoir 15 ans et demi.
15 ans et demi. Et j'entends dire que tu avais rejoint les Compagnons du Devoir.
Ouais, alors ça a été plus tard. J'ai d'abord fait 2 ans d'apprentissage. À Fréjus, avec un maître d'apprentissage extraordinaire. On faisait du pain au levain naturel dans un four à bois. Je me souviens tout le temps de remettre le pain dans le four à bois avec la petite pelle en bois et de me mettre des écharpes. Vous savez, à l'époque, j'avais des mains d'enfant, quoi. Et c'est vrai que ça fait mal. Et puis de brasser cette pâte, ça demande beaucoup d'énergie, en vrai. Parce qu'à l'époque, on pétrait avec des vieux pétrins en première vitesse. Il fallait rabattre la pâte toutes les demi-heures. Mais j'aimais cette gestuelle. Et on commençait à minuit. Donc ça fait tôt pour un jeune homme, de commencer à travailler à minuit, ça veut dire se lever à 11h, ça veut dire essayer de dormir la journée. J'ai fait 2 ans d'apprentissage, après je suis parti à l'armée. Et à l'armée, j'ai commencé à faire mon initiation pour voyager, puisque je me suis retrouvé à Lyon-Satonnet. J'avais demandé à faire l'outre-mer, donc ce n'était pas vraiment l'outre-mer. J'ai été voir le colonel au bout d'un mois, je dis, mais moi j'avais demandé à faire l'outre-mer, et chercher des appelés volontaires pour partir à Beyrouth. Et je suis parti à Beyrouth dans les casques bleus pendant 6 mois et demi. J'ai fait mes classes dans l'armée, vivre en communauté, parce que c'est là où j'ai démarré à apprendre à vivre en communauté. partagé, puisqu'on vivait dans des tentes, hein, ça a duré 6 mois, 7 mois, avec des FAMAS par terre. Et là, quand je suis rentré à Paris, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour continuer ma vie de boulanger? J'ai vu une affiche des compagnons de devoir du Tour de France. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer.
Et tu savais ce que c'était à l'époque? Parce que c'est quand même... c'est connu sans être connu. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui connaissent le nom, mais qui ne savent pas forcément ce que
ça peut aussi faire peur, des fois. On a l'impression que c'est un peu que c'est un peu mystique, c'est un peu surprenant et qu'on travaille beaucoup. Et j'ai un de mes cousins qui était compagnon dans l'ébénisterie. Donc, j'avais entendu parler, mais bon... À l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de communication actuels, c'est vrai que c'était plus vague. Mais je me suis dit, tiens, je vais aller essayer. Je suis passé 3 jours à Place Saint-Gervais à faire ce qu'on appelle un pré-test. Hein, et j'ai fait trois patrons différents. J'ai fait un essai, j'ai regardé comment les gens vivaient et tout. Et en vrai, cette communauté me rappelait l'armée en peut-être moins dur, parce que si on n'est plus dans des tentes, on est dans des maisons, on partage le repas dans une grande salle. Enfin, c'est plus sympa et je suis rentré, voilà.
Trop bien. Et alors, cette expérience compagnon, qu'est-ce que...
C'est une expérience humaine, passionnante, dure à la fois, mais souvent, je vois les gens qui ont fait les grandes écoles, ils me disaient que le plus dur, ce n'est pas les grandes écoles, c'était la préparation. Je crois que chez les compagnons, c'est ça, on apprend à se préparer pour la vie future, on apprend à vivre en communauté, on apprend à dormir dans des dortoirs, on apprend à partager le repas, on apprend la symbolique du compagnonnage, et on apprend surtout à apprendre et à former. Et ça, c'est le plus compliqué. En tout cas, chez moi, c'était le plus compliqué. Pourquoi? Me rendre compte que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, qu'il fallait toujours apprendre. Et aujourd'hui encore, j'ai soif d'apprendre dans tous les domaines. Et puis, apprendre à former, ça veut dire qu'il faut beaucoup de patience, il faut de la pédagogie. Et ça s'apprend, en vrai. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont peut-être ça d'une façon un peu plus innée au démarrage. Mais bon, il y a un long apprentissage, un long cheminement pour être un bon formateur, pour être un bon professeur. Et je crois que c'est passionnant. C'est des rapports humains qui sont extraordinaires. Et puis, tout ça autour du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie, c'est magique.
Et tu te doutais que tu allais apprécier ce côté formation tout de suite? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu découvert sur le tas et qui a pris goût
Non, pas du tout. En vrai, je dis toujours que j'ai fait tout ce que je n'avais pas envie de faire au départ. Je suis allé dans des villes chez les compagnons où je ne voulais pas aller. Mais bon, à chaque fois, c'était les choix du responsable de placement chez les compagnons. Et puis, je voulais pas du tout devenir formateur. Quand j'ai fini le compagnonnage, je voulais partir. J'avais trouvé une petite amie au Canada. Je voulais partir vivre ma vie là-bas. Et puis, on m'a dit non, ça marche pas comme ça. On t'a formé. Maintenant, tu vas former. Et donc, tu vas rentrer comme formateur pour les compagnons. En vrai, j'ai fait... la vie, je crois qu'elle est assez bien faite parce qu'en vrai, on m'a remis sur le droit chemin à chaque fois. Voilà. Quand je voulais pas faire quelque chose, on m'a demandé de le faire et je l'ai fait. Je crois que j'ai appris beaucoup et je pense que c'est bien pour les jeunes de savoir. C'est que parfois, on a l'impression que faire des choses ne sont pas bien pour vous, mais en vrai, elles sont bien pour vous. Mais il faut s'en rendre compte en vrai. Je dis souvent que j'ai eu la chance d'avoir des maîtres d'apprentissage divers et variés qui m'ont guidé sur la bonne voie pour que je m'épanouisse.
Et combien d'années chez les compagnons, du coup?
4 ans et demi, presque 5 ans. Et après, je suis devenu formateur pendant 2 ans.
Pendant 2 ans.
Voilà.
Okay. Et t'as participé au Tour de France ou...
J'ai fait le Tour de France, en vrai. Ouais. J'ai fait Paris, j'ai fait Marseille, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Nîmes. Non, j'ai voyagé, quoi, comme on dit. C'est plus avec le baluchon, c'est avec la valise, maintenant. On met sa valise dans le train ou dans l'avion et on part, on change de ville. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, on trouve des nouvelles équipes et c'est très dur dans la vie. C'est comme si on disait à une personne de déménager tous les 6 mois ou tous les ans. Et tu dis, il faut que je me refasse des amis, il faut que je me réhabitue à la ville, il faut que je l'apprenne. À l'époque, il n'y avait pas Google Maps. Donc, tu arrivais dans une ville, il fallait l'apprendre, il fallait la comprendre, il fallait voir comment ça marchait avec la voiture, le machin. Mais je crois qu'intellectuellement, c'est intéressant. Ça te pousse vers une démarche intellectuelle intéressante. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui m'a façonné pour pouvoir ouvrir des boulangeries partout dans le monde. Souvent, on me demande. Où est-ce que je me plais? Mais je dis, moi, je prends l'avion, je suis heureux. Tu m'envoies en Afrique, tu m'envoies en Asie, tu m'envoies en Espagne, tu m'envoies aux États-Unis, je suis toujours heureux.
Et donc, c'est quelques années chez les compagnons à commencer à voyager qui ensuite t'ont fait prendre conscience que le voyage, la découverte, c'est ça qui te plaît en plus du pain et de...
C'est en vrai transmettre une passion partout. On a fait des formations partout, pour des jeunes enfants qui étaient abandonnés au Cambodge, en Afrique. On a fait les premières... École de formation en Russie pour les enfants handicapés, mais légèrement, donc soit des sourds et muets, enfin des gens qui avaient des légers handicaps, on les a remis au travail et je crois que c'est magnifique. Et en dehors de ça, pour tous les gens, avoir la chance d'avoir un métier, je me souviens de former à Dakar un boxeur. Et je le formais à faire des croissants. Et il était pataud, le gars. Vous voyez, il était fort, il était musclé et tout. Mais quand il roulait ses croissants, ça n'allait jamais. Et je lui apprenais vraiment à poser ses mains, à être calme, et à faire des pas de boxe en même temps qu'il faisait ça. Et j'ai revu ce gars 10 ans après, je crois, chez nous, au Maroc. J'étais tellement content de le revoir. C'est-à-dire que le gars, il a compris que bah, il fallait, s'il ne pouvait pas faire une carrière de boxeur professionnel, il pouvait avoir une évolution, une carrière dans la boulangerie, que c'était extraordinaire. Et je crois que pour nous, il a fait plein de pays, le Burkina Faso, le Maroc, etc. En vrai, c'est donner la chance à des gens d'avoir un métier, et avec ce métier, pouvoir voyager, s'épanouir et nourrir sa famille.
Mais d'où ça te vient? Parce que c'est quand même, entre guillemets, c'est pas naturel, mais il y a plein de gens qui pratiquent un métier qui n'ont pas nécessairement envie de retransmettre ou de partager. Donc d'où ça te vient, cette envie, ce besoin de... d'aider, de partager?
Je sais pas, je crois que j'étais destiné à faire... moi, je crois beaucoup à la destinée, à faire ce métier, à le faire avec passion. Puis je crois qu'on m'a poussé à devenir formateur et à comprendre la machine humaine, le mécanisme humain, et qu'il fallait que passe du temps à transmettre, que j'apprenne à apprendre et que je fasse tout ça. Je crois que c'est le destin qui m'a poussé dans cette voie-là et qu'il fallait que je la fasse.
Ok, donc assez naturellement, après, ça a été voilà, envie de partager.
C'est dur hein, au départ, parce que quand tu te dis, tiens, je ne suis pas la voie que j'ai envie de faire, et qu'on te détourne de ta voie que tu crois être la bonne, bah, tu te casses un peu la tête, mais bon, il faut le faire.
Ouais, parce qu'en plus, tu ne te projettes pas tout de suite dans ce cas-là, parce que tu dis, moi, j'ai un truc qui est tracé, je sais où je vais, on me dit, ouais. Bah non, en fait, il faut aller à droite ou à gauche. Et, c'est dur de se projeter, de se dire, en fait, c'est une bonne idée de faire ça assez tôt.
Non, c'est dur, mais bon... Je crois que quand on t'a donné la chance de pouvoir faire un parcours, après, si on te demande d'aider les autres à faire ce type de parcours, bah, il faut le faire. Enfin, ça fait partie de la vie, quoi. C'est la transmission, en vrai. Je crois que c'est ça aussi qui m'a passionné dans ma vie. On a démarré, nous, notre premier magasin il y a 30 ans, rue Monge, en 13 septembre 96. Et à l'époque, c'est une boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Et parce que j'avais les moyens de faire ça, donc j'ai investi tout ce que j'avais pour faire ce premier magasin. Et après, au fil du temps, on a additionné des restaurants, des pizzerias, des cafés, des salons de thé. Tout le temps. Et partout, on a fait ça en Afrique. D'ailleurs, on est très connus pour ça. En Afrique, on est vraiment des lieux de vie où les gens viennent se restaurer tout au long de la journée. On a des espaces de 1000 mètres carrés dans certains endroits et les gens adorent. Donc, il faut faire en vrai ce que veulent les gens, les clients. Il faut les satisfaire. C'est ce qu'on essaie de faire.
Et comment tu passes de... Parce que... entre guillemets, être boulanger, avoir sa boulangerie et construire quelque chose comme tu as pu faire avec des boutiques aux quatre coins du monde. Comment, déjà, un, comment tu passes de l'un à l'autre? Et deux, comment tu fais pour... Parce que si tu es passionné par le pain, par la matière, par ce que tu fais, il y a quand même un monde entre la matière et créer quelque chose, pas un empire, mais créer quelque chose de beaucoup plus grand où tu es peut-être moins au contact au quotidien avec la matière.
Ouais. Alors, je reste assez au contact avec la matière parce que je fais toujours beaucoup, beaucoup de démonstrations aux États-Unis, en Asie, en France, partout. Alors, j'essaie de le faire autant que je peux parce que ça me libère l'esprit déjà. Deuxième chose, c'est que j'avais vu un monsieur là qui était un de mes tuteurs aussi, qui était un des directeurs d'un gros groupe de restauration. Il me disait, dans la vie, il y a des paliers. Tu passes d'un magasin à deux magasins, c'est dur. De deux à quatre, c'est dur. De quatre à huit, c'est dur. Et t'as toujours ces paliers, il faut que tu les passes. Et à chaque fois que tu passes ces paliers, il faut que tu trouves les bonnes personnes qui vont avec. Alors, c'est quoi les personnes? Bah, c'est des comptables. Ça va être des avocats, si tu grossis encore. Ça va être des ingénieurs. Ça va être tout ce qu'il faut pour construire une entreprise. Donc, en vrai, il faut à chaque fois qu'on trouve cette architecture d'entreprise pour que ça fonctionne. Et parfois, les gens qui sont là au démarrage ne sont pas toujours 10 ans après parce que ça ne leur convient plus ou parce que l'entreprise est devenue trop grosse. J'ai, par exemple, une fille qui était extraordinaire, qui a resté avec moi pendant 18 ans, qui s'appelait Magali, qui s'occupait de tous les démarrages et de la responsabilité de nos magasins. Puis elle est partie il y a quelques années, parce qu'elle a trouvé un homme, elle s'est mariée, elle a fait un enfant. Donc en vrai, ce qu'il faut, c'est trouver ces gens qui peuvent t'accompagner, puisque de toute façon, toi, en tant que boulanger ou ébéniste ou architecte ou ce que tu veux, tu ne peux pas tout savoir. Donc tu as besoin des hommes qui ont la connaissance. Donc j'essaie de toujours bien m'entourer partout. Et à partir de ce moment-là, bah, les choses se mettent en place. Mais en vrai, encore une fois, je parlais du destin au démarrage. Je crois que mon destin était de faire ça. Je me voyais enfant, rêver dans mes rêves et ouvrir des boulangeries dans le monde et voyager. Alors, je ne sais pas si c'était un rêve éveillé ou c'était une envie que j'avais, que j'ai développée. Mais en tout cas, j'ai tout mis en place pour que ça fonctionne. Destin, envie, on n'est pas très loin, hein, je crois, dans le subconscient pour que ça se mette en place et que ça fonctionne en tout cas. Et je l'ai fait.
Et donc, très tôt, tu savais que c'était pas juste une boulangerie que tu voulais ouvrir, c'était quelque chose de plus grand.
Ouais. J'ai besoin de voyager. J'ai toujours besoin de voyager. J'ai toujours besoin de partir partout dans le monde. Là, j'arrive d'Asie. Hein, j'étais en Thaïlande et au Cambodge, je repars aux États-Unis, je repars en Espagne. Je fais... Vraiment, j'aime ça. Et ça ne me pèse pas, ça ne me fatigue pas. Les... Le jet lag ne me fatigue pas. Non, c'est quelque chose que j'absorbe parce que j'en ai envie.
Donc, qui dit voyage, dit aller à la rencontre de personnes qui sont différentes, de cultures différentes, de gastronomies différentes. Est-ce que toi, tu essayes d'apporter, on va dire, la French touch partout où tu vas, ou est-ce que tu essaies de t'adapter à...
Alors, il y a une double question là-dedans. Premièrement, on a 60-70% de nos produits qui sont les mêmes partout, mais par contre, 30-40% s'adaptent à chaque pays. Par exemple, je prends l'exemple du Mexique, qui mange beaucoup de pain à partir de maïs ou de semoule, donc on fait beaucoup de pain à base de semoule et de maïs. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des pays où on vend beaucoup plus de restauration, café, petit-déjeuner, qu'on va vendre de pain. Parce qu'il y a des pays où on ne vend pas beaucoup de pain. Je prends un exemple, le Japon, notre plus grosse boulangerie sur une cinquantaine de magasins, c'est un magasin où on vend 200 baguettes par jour. En France, ça n'existe pas, 200 baguettes, c'est rien. T'en vends 1000, t'en vends 2000, etc. La deuxième chose, c'est comment comment on vit avec les gens. Moi, je dis toujours qu'une association, on fait soit de l'association, soit de la licence de marque. C'est comme un mariage. Il faut arriver à s'entendre pendant très longtemps. On voit toujours les premiers mois, les premières années, c'est l'amour à la folie, puis après, ça se défait un petit peu. Et en vrai, je crois que chacun doit évoluer à sa façon, mais on doit essayer de s'adapter l'un à l'autre. C'est ce que j'essaie toujours de faire. Par exemple, je prends notre partenariat le plus vieux, c'est le Japon. Ça fait 26 ans qu'on est. Je suis toujours avec mon partenaire. Et j'ai l'impression qu'on s'est habitué l'un à l'autre au fil des années avec l'évolution qu'on a eue chacun. On s'est toujours beaucoup respecté, on a toujours essayé de faire l'un pour l'autre pour que ça fonctionne, un peu comme dans la formation et la transmission. Et dans chaque pays, il y a des us et des coutumes qui sont différents. Au Mexique, c'est différent, aux États-Unis, c'est différent. J'ai toujours essayé d'être assez malléable pour m'adapter. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien. Hein. J'avais un monsieur là, qui était un de mes mentors aussi, qui me disait toujours, sur 10 entreprises, tu en as 6 ou 7 qui marchent très très bien, tu en as une ou deux qui marchent moyennement, et tu en as une ou deux qui marchent très mal. Et celles qui vont te prendre du temps, c'est comme dans une famille, ça va être ceux qui ont le plus de mal. Et là, c'est là où il faut passer du temps au chevet de l'enfant malade ou de l'entreprise malade. Je crois que c'est une entreprise, c'est tout ça en vrai. Tu ne peux pas te dire, je viens, j'impose, je fais faire, et puis ça fonctionne. Non, tu viens, tu essaies d'imposer ce que tu penses être bien, tu écoutes les gens qui sont en face de toi, tu essaies de t'adapter au marché local, tu essaies de t'adapter à ton interlocuteur, et ensuite ça fonctionne.
Parce que Maison Kaiser, maintenant, ça représente combien de pays, combien de...
Aujourd'hui, je pense qu'on est dans 35 pays. Ça doit être au moins 400 points de vente. Et puis, on a aussi d'autres marques. On est associés. On fait vraiment plein d'autres choses.
Comment tu fais pour ne pas te disperser dans ces cas-là? Parce que 35 pays, 400 points de vente, c'est quand même énorme.
Alors moi, j'ai la chance d'avoir des hommes extraordinaires et des femmes qui sont des boulangers, qui sont des pâtissiers, des traiteurs, des vendeurs, des cuisiniers, tout ce qu'on veut. Et ces gens-là transmettent la bonne parole. Je me souviens, moi, quand j'étais à Monge, tout démarrage pendant des années, j'étais tous les jours au fournil. Et malgré que je sois là, il y avait souvent des erreurs de fait. Ça veut dire que même moi, je n'arrivais pas à anticiper les choses suffisamment pour que tout fonctionne bien. Et j'allais dire, à partir du moment où tu donnes la responsabilité à des gens qui sont de confiance et qui veulent faire bien, c'est la même chose. Ils transmettent le même message partout. Et je trouve que ça fonctionne globalement assez bien. Je n'ai pas dit que c'était parfait. Hein. On est perfectible partout. Vous voyez, je suis venu ce matin ici, je vois que c'est tout neuf, le congélateur est en panne, la chambre fermentation est en panne, machin. Sûrement qu'il y a des problèmes dans l'installation, on va revoir tout ça, il y a un problème de prise. Mais il faut toujours être en mouvement perpétuel. Voilà. Et puis, j'essaie moi de passer dans les pays également pour voir comment ça fonctionne, etc. Puis de remettre en cause peut-être ce qu'on a fait pour leur faire mieux.
Est-ce qu'il y a un pays en particulier où, quand on te dit que tu as appris quelque chose, qui te vient à l'esprit?
Ah, mais moi, je crois que j'ai appris vraiment beaucoup. Mais j'allais dire, là où j'ai eu le plus d'apprentissage, mais parce que le pays est fort, c'est les États-Unis. Parce qu'il fallait faire du volume, parce qu'il fallait penser différent, parce qu'il fallait réfléchir vite. Et je trouve que ces Américains, ils ont une façon de travailler qui est quand même assez différente des autres. Il faut aller vite, il faut penser vite, il faut penser gros, il faut penser fort. Et je trouve que j'ai appris beaucoup là-bas. J'ai appris à mécaniser. Industrialiser, on pourrait dire entre guillemets, un travail artisanal avec une très très grande qualité.
Et comment tu fais? Parce que, entre guillemets, le pain, c'est de l'eau, de la farine, du sel. Comment tu fais pour pousser ça vers un niveau de qualité? Comment tu vas chercher ce niveau de qualité? Comment tu vas chercher, entre guillemets, toujours un peu plus loin avec quelque chose qui fondamentalement est assez simple, on va dire, dans la constitution?
Ouais. En vrai, c'est surprenant. J'ai été à l'exposition universelle il y a un an. Et vous allez voir le parallèle, hein. On va loin. Je suis au Japon, à Osaka. et je rencontre une femme qui est habillée en samouraï. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je suis descendante d'une lignée de samouraïs. Sa famille était dans les samouraïs. Bon. Elle vend du thé. OK. Et elle faisait du thé sur notre magasin à l'exposition universelle à Osaka. OK. J'oublie. Je reçois un message quelques mois après. Elle me dit qu'elle veut venir me rencontrer en France. Elle vient en France avec des docteurs, des machins. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Je n'ai pas compris. Je dis, mais tu fais quoi? Tu fais du thé ou tu fais autre chose? Non, elle me dit, j'ai aussi un centre de recherche très important au Japon où on essaie d'améliorer la longévité des gens. D'accord? Et là, le docteur se met à parler, le docteur japonais. Il me dit, je suis parti dans ces villages au Japon où les gens vivent plus de 100 ans, sont centenaires. D'accord? Je dis, mais quel rapport avec moi? Il me dit, on a essayé de chercher. Est-ce que c'était à cause de leurs pommes de terre? Est-ce que c'était à cause de leurs prunes? Est-ce que c'était à cause de leur saké, etc.? Mais c'était pas ça du tout. Il me dit, ces gens, ils étaient sales, ils se lavent pas beaucoup, ils mangent n'importe comment, ils fument, ils boivent et ils sont centenaires. Je dis, mais alors, c'est quoi le secret? Il me dit, le secret de leur longévité, c'est les microbes qu'ils ont sur leurs mains, partout, sur leur corps. Ils se nettoient pas, ils sont pas propres comme les autres. Et on a récupéré ce microbe et on l'a développé en laboratoire pour essayer d'améliorer la vie du monde. Bon, je dis, d'accord, j'ai toujours pas vu le rapport avec moi. Et il me dit, écoute, j'ai fait des cellules souches et j'aimerais que tu fasses des essais avec tes levains pour voir si on pourra améliorer la vie des gens à travers le pain. Hier, je suis repensé parce que je suis rentré de voyage et j'ai reçu leur grand truc de cellules souches pour essayer de tester, pour mettre dans mes machines à levain. Alors tu te dis, moi, il y a 35 ans, avec un ami, on était formateur et on se disait, Patrick Castagna, on se disait, les gens n'arrivent pas à travailler pour faire du pain au levain, donc on va inventer une machine pour que ça soit plus simple. On a créé ce qu'on appelle la machine fermentée au levain qui permet de gérer des levains en permanence. C'est-à-dire que la machine, tu mets une souche dedans, et après, chaque jour, tu remets de la farine, de l'eau, tu as un réservoir pour ne pas perdre la souche mère, et tu vas faire fermenter. Donc, ça va chauffer, ça va refroidir, etc. Ça, c'est une machine qui fait du levain en permanence. Si tu ne veux pas, tu peux acheter du levain déshydraté que tu vas rajouter dans ton pétrin chez les levuriers, qui, à l'époque, ne voulaient pas entendre parler de levain, mais ils se sont mis, finalement, ils ont vu que le marché était bon. Okay. Tu pars de ça, et tu vois d'un seul coup des scientifiques qui viennent te voir pour te demander de faire des essais, pour faire des alicaments, hein, ce qu'on appelle des médicaments à travers des aliments pour essayer de voir si ça pourra améliorer la vie des gens. Bah, tu te dis, mais comment la vie ne peut pas être écrite? Tu vois, je suis au Japon, eux ils sont au Japon, moi je suis en France, je trouve la voie pour rencontrer ces gens. Et là, je vais les voir au mois d'octobre pour qu'on fasse des recherches très poussées dans leur laboratoire. C'est la beauté de la vie, ça, je crois, c'est extraordinaire. C'est un destin, c'est une destinée, c'est croire en quelque chose. Et puis les choses arrivent comme ça.
Donc c'est la preuve qu'en fait, finalement, à partir de quelque chose, on va dire, relativement simple en termes de composition, on peut quand même faire des choses
extraordinaires. Alors nous, comment on a fait? Bah, je suis allé en Inde, j'ai regardé qu'ils utilisaient le curcuma. Puis après, je suis allé au Cambodge et j'ai vu qu'ils utilisaient du poivre de compote. Et après, on a utilisé du chocolat du Venezuela et du machin. On a mélangé les ingrédients, on a commencé à faire des pains ou des produits, la pâtisserie idem, pour que ça soit quelque chose de beau et qui plaise surtout au goût des gens. C'est ça qui est extraordinaire. Je regarde, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, on a gagné le pain des morts au Mexique. C'est une spécialité pour la fête des mères, ils font un pain spécial. On a gagné le premier prix parce qu'on a su le réinterpréter comme il faut. On a gagné le premier prix du croissant au thé vert au Japon. On s'est adapté aux cultures, aux coutumes locales, aux ingrédients pour pouvoir faire quelque chose de bien, mais surtout qu'il soit fermenté comme nous, on pense que c'est bien.
Tu sais peut-être pas tout de suite ce qui vient, parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes vachement au projet, aux choses qui arrivent, mais est-ce qu'il y a des choses qui arrivent bientôt qui te stimulent, qui te disent, mais enfin voilà, on est sur
le bon. Ouais, j'aimerais ouvrir en Inde, là, j'ai l'impression que ça se rapproche. Parce que c'est une culture qui est quand même vraiment, vraiment différente de la nôtre. Et je veux tester, je voudrais ouvrir des magasins et voir comment on arrive à s'adapter, comment on arrive à fonctionner, comment on arrive à se faire connaître. C'est un continent qui est immense, c'est 1,5 milliard ou 1,6 milliard d'habitants. Mais je trouve intéressant de leur façon de vivre, de leur façon de vivre entre eux, en communauté, etc. Et j'ai envie de tester ce marché en ce moment. Donc je pense que ça arrivera. On verra. Et peut-être qu'on pourrait créer des écoles de formation là-bas, en différentes parties, en différentes régions. Ce sera intéressant. Et là, j'ai une équipe qui est en Chine aujourd'hui, en train de regarder aussi pour avancer, puisqu'on a Taïwan, on a Hong Kong, mais on n'est pas encore en Chine. Et tout ça nous demandera beaucoup, beaucoup d'adaptation intellectuelle et professionnelle.
Est-ce que, parce qu'on a parlé de la tradition, on a parlé de faire les choses différemment, est-ce qu'il y a, on va dire, une ligne que tu refuses de franchir, ou quelque chose où tu dis, voilà, ça c'est traditionnel, c'est comme ça, on le fait tel quel, versus quelque chose où tu dis, bah non, en fait, on peut tout faire, on peut tout inventer.
En vrai, je me suis beaucoup, beaucoup posé de questions par rapport à ça. C'est-à-dire que quand j'ai été éduqué chez les compagnons, je me suis dit, est-ce que le modèle, c'est d'ouvrir un magasin, d'avoir sa femme dans le magasin, d'avoir son boulanger en bas, son pâtissier, de travailler dedans? Ou est-ce que le modèle, c'est de se développer, de pouvoir partir dans le monde? À l'époque, on disait un artisan, c'est quelqu'un qui est dans son entreprise. Un cuisinier, un chef cuisinier devait rester dans son restaurant, un pâtissier dans sa pâtisserie. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup hésiter par rapport à l'éducation que j'ai eue quand j'ai commencé à faire du développement. Et je me suis dit, non, mais peut-être que le monde, il est plus ambigu, il est plus compliqué ou il est plus beau que ça. Et peut-être que chacun doit vivre en fonction de son intensité, de sa force, de sa volonté, de ce qu'il pense. Et c'est ce que moi, j'ai voulu faire. Et j'ai engagé des jeunes à prendre cette voie, mais pour ceux qui en avaient envie, parce que celui qui a envie de vivre dans son entreprise, rester dans sa ville et de faire du bien dans sa ville, c'est extraordinaire. Et celui qui a un sujet de vouloir faire du développement, de l'expansion, etc., et qui a la force et la volonté, je crois que c'est aussi extraordinaire. En vrai, chacun a sa voie. Je crois que le plus important, c'est de respecter son prochain, de faire les choses d'une façon qui soit carrée, qui soit propre. Et puis, ben, si t'as fait les compagnons, si t'as appris un métier pendant des années, c'est essayer de le faire bien. Je crois que c'est ça, en vrai, le message. Et moi, j'ai toujours aux salariés chez nous. Vous savez, quand je vous ai donné ma parole, en général, je la respecte. Je vois pas, je n'ai pas envie qu'on me prenne à défaut de ne pas respecter. Et je veux que ça se dise dans partout. Et je crois que c'est ça. Voilà, on essaie de faire.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'être moi-même. Je crois que le truc est con, comme la vie. Mais c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu ailles à l'encontre de ce que tu as envie de faire. Il faut pas que quelqu'un te bloque, ou faut pas, par exemple, tes parents, ils vont te dire ne pars pas, ne voyage pas, parce que les parents ont envie de garder leur enfant vers eux. Non, moi, j'ai poussé mes garçons à voyager, j'ai poussé mes enfants à s'épanouir. Et je crois que c'est ça, en vrai, le truc, c'est de pousser les gens, de les aider à ce qu'ils prennent leur envol. Moi, en tout cas, j'ai dit toujours, j'ai démarré ma vie d'une façon très, très dure. Parce que, à l'époque, on travaillait à minuit. Moi, je me souviens d'être au bal du lycée et de danser avec une fille qui était très, très jolie. Je me suis dit, tiens, j'ai de la chance. Et la fille, à 11h30, je lui dis, écoute, je suis désolé, il faut que je parte. Puis elle m'a regardé comme un fou, quoi. Puis elle me dit, mais tu vas où? Je dis, je vais travailler. Mais à l'époque, vous voyez, tu vois, t'étais apprenti boulanger. Tu partais travailler à minuit. Les métiers artisanaux étaient décriés. T'es sûr que la fille, tu la revoyais jamais. C'était dur, ouais, tu vois, quand t'as 15, 16 ans, 17 ans, je sais pas quel âge j'avais. Et à chaque fois, j'avais rencontré des filles, je leur disais, je suis désolé, mais je quitte la ville, etc. C'est dur, mais ça t'apprend aussi la séparation, les retrouvailles, ça t'apprend à t'épanouir, ça t'apprend à te refaire des amis. En vrai, je crois que c'est ça le truc, c'est que si t'as envie de voyager vraiment, en vrai, quand tu fais du compagnonnage, par exemple, le but, c'est qu'on t'emmène à voyager, on t'emmène à découvrir, on t'emmène à aller au contact des autres. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai appris, c'est ce que j'ai fait à travers le monde. Et donc, si je devais te donner un conseil, je dirais aux gens, fais ce que tu as envie. Si tu as eu une vision, un moment donné dans ta vie, si tu as eu une prémonition, si tu as eu quelque chose, fais-le.
Et tu parlais de tes enfants, et parce que toi, tu viens quand même d'une lignée de boulangers. Est-ce que pour eux, ça a été, fils, toi aussi, tu rejoindras, ou est-ce que...
Non, vraiment, moi, je veux pas que mes enfants fassent quelque chose qui me fasse plaisir ou pas plaisir, d'ailleurs. Parce que je veux qu'ils soient heureux, pour moi, c'est le plus important. Qu'ils soient épanouis, etc. Donc j'ai des garçons compris qui font des choses qui sont différentes et je trouve ça bien. Si un jour ils ont envie de me rejoindre pour X raisons, je serais très heureux, mais s'ils viennent pas, je serais aussi très heureux, parce que demain, quand je serai plus là, j'ai pas envie qu'ils soient cru obligés de continuer à faire ce que j'avais démarré. C'est mon choix de vie, c'est mon chemin de vie, c'est ma carrière. Ils font ce qu'ils ont envie. S'ils ont envie, ils font. S'ils n'ont pas envie, ils font pas.
Que t'as quel âge maintenant?
60.
60 ans, parce que ce qui est extraordinaire, ce qui me fascine avec toi, ton histoire et ton parcours, c'est que je connais plein de gens qui sont plus jeunes, enfin, ou même à 20-30 ans, et qui ont l'impression, en fait, ça y est, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, et ça y est. Et je suis fasciné par cette manière que tu as de décrire la vie et de dire, en fait, il faut toujours apprendre. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment tu t'es dit, ça y est, j'ai tout appris, je sais.
Tu demandes aux gens chez moi, je suis un fou, moi. Je suis un malade mental, hein. Je vais poser des questions, je vais demander pourquoi tu as fait ça et comment tu l'as fait, qu'est-ce qu'il y a là, et machin. Je fais des photos dans le monde entier, tous les produits que je trouve beaux, pour qu'on reconstitue, pour qu'on refasse, pour machin, tout le temps, inlassablement. Et j'adore. Et je dis toujours, moi, je prends l'avion, c'est comme le premier jour où je prenais l'avion. Et je vais découvrir, je vais dans les pays, je vais voir le marché aux épices, je vais voir le marché aux fruits et légumes, je vais voir comment on peut adapter un produit. Et c'est beau, je trouve ça beau. J'étais en Thaïlande, là, j'ai fait des photos de produits, par exemple, j'ai trouvé très beau chez nous, je ne connaissais même pas. Et je dis, tiens, voilà, des produits qui sont intéressants, qu'on pourrait refaire demain en France. Le jour où tu n'as plus envie d'apprendre, Je crois que c'est le jour où, en tout cas pour moi, où ça sera le jour de la fin, quoi, où je m'arrêterai. J'aurai plus envie, je bougerai plus, je ferai plus rien. Mais je serai foutu. C'est-à-dire que mon cerveau s'arrête. Et tu peux pas avoir vécu à 300 à l'heure et d'un seul coup te dire je m'arrête, c'est pas possible. La vie, c'est pas ça.
Est-ce que t'as un rêve pour la suite?
Mon rêve, c'est d'ouvrir des écoles de formation, de continuer à ouvrir des magasins dans le monde, d'essayer de rendre des gens heureux, épanouis. Parce que nous, on propose aussi à nos gens qui sont chez nous de pouvoir s'installer, de pouvoir s'associer avec nous, ou d'ailleurs sans nous, s'ils ont envie. Hein. Je me suis associé avec des gens pour faire d'autres marques, par exemple. En vrai, que les gens soient heureux à travers ce métier de la boulangerie-pâtisserie que je connais bien.
Le thème de ces rencontres, c'est « Vive la vie ». C'est une phrase qui m'est chère, qui nous est chère à l'équipe. C'est ce moment où tu es en train de travailler et puis il se passe quelque chose et tu dis mais vive la vie quoi. C'est ces moments forts où tu comprends pourquoi tu fais les choses. Un, qu'est-ce que ça t'inspire? Et deux, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te dis mais vive la vie?
Franchement, vive la vie pour moi, ça a été l'exacte réalisation de tout ce que j'ai fait pour être heureux. Hein. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, j'ai démarré d'une façon dure et puis après la vie s'est améliorée au fil du temps. Parce que je m'en suis donné les moyens, parce que je me suis justement, tiens, il faut que je la vive cette vie, il faut que je l'épouse, il faut que je l'aime, il faut que je la développe. Et je crois que ça, c'est extraordinaire. Ne restez pas avec des barrières, ne restez pas avec des choses qu'on vous a apprises qui pourraient être pas bonnes pour vous, mais vivez, profitez, apprenez avec les gens. Vous avez tellement de gens qui sont extraordinaires sur cette terre, qui soient de partout, dans tous les horizons, dans tous les pays, qu'il faut vivre, il faut être heureux, il faut voyager, il faut se faire plaisir, il faut être content. Vive la vie, c'est extraordinaire. J'adore, ça pourrait me correspondre. Je vais l'écrire sur le mur.
C'est floqué, vive la vie, on est partout.
On va faire un pain, vive la vie.
Eric, c'était un plaisir, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hein.